autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs qui nous écoutez aux quatre coins de la planète, car c'est précisément de nous, de notre population mondiale, de notre démographie, dont il va être question aujourd'hui. Nous serons bientôt plus de 8 milliards d'êtres humains sur Terre, selon les dernières prévisions de l'ONU pour 2025. Ça fait beaucoup, beaucoup trop, selon certains. Faut-il s'en alarmer? Faut-il avoir peur de la population mondiale? Pour reprendre le titre de l'essai percutant et salutaire de notre invité, le démographe Jacques Véron, spécialiste des relations entre population et environnement, qui démonte nos clichés par trop simplificateurs et nos idées reçues. Non, il ne suffira pas de réduire notre population pour réduire la pression environnementale. Les enjeux démographiques sont bien plus complexes, ils sont surtout l'affaire de tous, partout, sur notre petite planète. Autour de la question, faut-il avoir peur de la population mondiale? Bienvenue pour partager nos points de vue, nos points de vie, si j'ose dire, en commençant par celui du philosophe Pascal Chabot.
Je me souviens qu'Aldous Huxley, dans Le Retour au meilleur des mondes, paru en 1948, écrivait qu'on serait bientôt 3 milliards 200 millions sur Terre et que la catastrophe était absolument inéluctable. Et bon, on est beaucoup plus du double. La catastrophe n'est pas là. Tout au long du XXe siècle, on a eu énormément de cris alarmistes par rapport à cette bombe population. Il est en effet peut-être intéressant de la remettre en question en se disant que c'est pas le nombre lui-même qui est le paramètre le plus important, mais c'est que consomme cet ensemble de personnes. Comment consomme cet ensemble de personnes 7 milliards d'individus qui vivent comme un Américain fortuné ou 7 milliards d'individus qui vivent comme quelqu'un au Bangladesh, par exemple, c'est pas du tout la même planète. Donc, à mon sens, l'importance n'est pas tant la peur de la foule, la peur du nombre, mais la manière dont ces personnes vivent au niveau de la démocratie et au niveau également de ce qu'ils consomment.
Bonjour Jacques Véron.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour faire le point justement entre fantasmes et réalité, fausses alertes et vrais enjeux sur notre démographie mondiale. Sujet sur lequel vous travaillez depuis de nombreuses années. Vous êtes directeur de recherche émérite à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, spécialiste des relations entre population et environnement, auteur de nombreux ouvrages, on peut citer L'urbanisation du monde ou le formidable dictionnaire de démographie et des sciences de la population, mais aussi démographie et écologie. Vous venez de publier, Jacques Véron, aux éditions Point, essai « Faut-il avoir peur de la population mondiale ?» Point d'interrogation, une question toute simple apparemment, à laquelle vous, en tant que démographe, n'apportez évidemment pas de réponse simpliste.
Oui, j'essaie de bien situer les choses. D'abord en disant, est-ce qu'il faut avoir peur? Si on a peur, on fait quoi? Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut vraiment avoir peur? Alors, par rapport à la présentation
d'introduction,
je suis tout à fait d'accord avec lui, modulo le fait que quand même le nombre n'est pas pour rien dans l'affaire. Autant dire, il est souhaitable que la population se stabilise, moi j'ai cette position, parce que ça ne sert à rien d'être de plus en plus nombreux, mais l'évolution a été ce qu'elle est. Effectivement, on n'a pas observé les catastrophes qui avaient été annoncées.
Donc, ça n'est pas qu'une question de nombre, mais la question du nombre est très importante, d'autant que c'est une croissance exponentielle. Et c'est ça qui nous fait peur, c'est la croissance exponentielle de notre humanité. C'est une inquiétude quand même légitime. Si on se reporte à quelques siècles en arrière, c'est vraiment la croissance exponentielle de notre humanité.
Oui, alors c'est une période bien définie de l'histoire, où la mortalité a beaucoup baissé, donc le potentiel de croissance a été très important. Mais
c'est-à-dire que c'est vraiment une inquiétude qui est légitime, le fait d'avoir peur de la population en 1800.
On n'est plus dans la phase de croissance exponentielle qu'on a connue dans les années 60. Il y a eu un ralentissement. Ce qui se passe, c'est que les populations, quand elles augmentent rapidement, elles développent un phénomène d'inertie, c'est-à-dire qu'elles prennent un élan exactement, on compare toujours ça en bicyclette. Si vous pédalez fort, vous arrêtez de pédaler, bah, vous continuez à avancer. Bah, la population, même si la fécondité devient plus faible, elle va continuer à croître. Et c'est ce qui se passe en particulier pour la population d'Afrique, qui est très très jeune. Donc il y a effectivement des tailles de famille encore assez élevées en Afrique, mais en plus, il y a la jeunesse de la population qui fait qu'il y a beaucoup de couples en âge d'avoir des enfants.
Ce que vous dites, c'est que finalement, on a peur aujourd'hui parce que cette bombe démographique qui n'a pas vraiment lieu, mais cette explosion quand même exponentielle. Rappelons quand même qu'on n'était qu'un milliard sur Terre en 1800. Oui, j'ai pris dans votre ouvrage les chiffres, 2,54 milliards en 1950 et aujourd'hui près de, enfin pas loin de 8 milliards, oui, hein, oui. Déjà presque 8. Donc c'est ce côté exponentiel, mais vous dites finalement c'est presque c'est pas aujourd'hui que ça se passe, c'est hier que ça s'est passé et aujourd'hui on en subit les conséquences.
Oui, alors c'est encore un peu aujourd'hui que ça se passe. Mais c'est beaucoup hier que ça s'est passé. Et donc, effectivement, tous les scénarios d'aujourd'hui qui supposent un ralentissement et même une stabilisation de la fécondité à des niveaux, disons, du remplacement, tous ces modèles excluent un arrêt immédiat de la population. Et là, ça renvoie un peu à toutes les solutions quand on entend parfois dire la solution pour le changement climatique.
C'est d'arrêter de faire des enfants.
Alors, c'est d'arrêter d'avoir des enfants une chose, mais c'est d'arrêter la population, c'est encore une autre. Parce que même si on arrête d'avoir des enfants, ou si on en a très peu, la population continuera à augmenter, évidemment, sauf si on arrête complètement.
C'est encore autre chose. Mais est-ce que ça vous énerve, justement, parce qu'on entend quand même beaucoup aujourd'hui certains points de vue, notamment, enfin très radicaux, parfois écologistes, qui disent la seule solution, c'est de réduire drastiquement la population sur Terre. Vous le dites dans votre premier chapitre, puisque vous dites que finalement, on accuse toujours les humains d'être un péril pour l'humanité. Enfin, voilà, on est régulièrement accusé de mettre en péril notre propre humanité. Est-ce que ça vous énerve quand on entend ça, Jacques Véran?
Malheureusement, je suis un petit peu habitué à l'entendre. Mais je pense qu'effectivement... il ne faut pas sous-estimer la dimension inégalité. Parce que finalement, quand on raisonne sur 8 milliards d'habitants, on fait l'hypothèse implicite qu'ils sont tous dans la même situation à l'égard des processus, à l'égard de l'environnement, etc. Ce qui est loin d'être le cas. Donc on voit bien qu'effectivement, la richesse ça s'associe à une pollution urbaine, etc. Ça ne veut pas dire que des gens pauvres ne polluent pas d'une autre manière, hein, parce qu'il ne faut pas non plus idéaliser le rapport à la nature des populations plus pauvres. Elles déforestent, elles ont un impact sur leur environnement qui n'est pas négligeable. Mais en tout cas, on ne peut pas juste considérer que c'est 8 milliards multipliés par quelque chose, si vous voulez.
Oui, et c'est en cela que la démographie est une discipline intéressante, parce qu'elle est quand même à la frontière, l'utilité des statistiques, des chiffres, on part de chiffres, mais il faut aussi observer, ça c'est vraiment du côté des sciences humaines et sociales, comment vivent les populations, les différentes populations, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe derrière tous ces chiffres, et qu'est-ce qui est réellement, qu'est-ce qui est la réalité pour sortir justement des fantasmes, des peurs, pour être dans les vrais enjeux.
Oui, la démographie permet un encadrement de la réalité. C'est-à-dire que par des données chiffrées, on peut observer un potentiel de vieillissement de la population. Par exemple, si on prend le cas du Japon aujourd'hui, où il y a une très basse fécondité depuis déjà plusieurs décennies, le Japon a développé un potentiel de vieillissement considérable. Donc c'est quasiment inéluctable. Il faudrait que la fécondité augmente de manière vraiment majeure. Pour inverser, encore, on n'inverserait pas vraiment le phénomène. Donc là, il y a vraiment des questions de base. Et après, il y a le fait que s'il y a un vieillissement de la population, comment vont évoluer les relations entre les générations, par exemple? Ça, c'est du domaine de l'économique, du social, du psychosocial, etc. Donc,
Et cette question du vieillissement de la population, elle est au fond, on y reviendra, aussi importante que la question du nombre, la question de la démographie, autour de la question faut-il justement avoir peur de la population mondiale? Et même si on est bien d'accord, nos vies ne se résument pas aux statistiques, il est important d'en revenir donc aux chiffres, hein, aux chiffres de la croissance démographique, mais aussi donc du vieillissement des populations. Vous avez souhaité, Jacques Véran, entendre le directeur de la direction de la population des Nations Unies, en charge de la projection démographique. On va l'écouter jusqu'au bout, il s'appelle John Wilmot.
Using demographic and statistical methods, we have projected the global population forward to 2100.
Nous avons réalisé des projections de la population mondiale jusqu'en 2100 à l'aide de méthodes démographiques et statistiques. Les plus récentes indiquent que la croissance démographique va se poursuivre. La population mondiale pourrait atteindre environ 9,7 milliards en 2050 et 10,9 milliards en 2100, tout en sachant que le vieillissement de la population mondiale est un élément aussi important à considérer que l'augmentation en nombre de la population globale.
John Wilmot, donc le directeur de la division de la population aux Nations Unies, qui rappelle, je crois que c'est ça que vous vouliez entendre aussi, Jacques Véron, que le vieillissement de la population mondiale est un élément aussi important à considérer que l'augmentation en nombre de la population globale. Alors expliquez-nous ça.
D'un côté, il y a le nombre d'habitants sur Terre, et puis il y a la structure par âge de la population. Structure par âge de la population mondiale, donc quelle est la part des personnes de plus d'un certain âge dans l'ensemble de la population. Sous-entendu, quel est le poids des personnes inactives ou la charge des personnes inactives pour les personnes actives. Donc ce vieillissement, il faut bien voir qu'il est la rançon de la limitation de la croissance de la population. Alfred Sauvy disait « croître ou vieillir ». C'était une maxime qui a connu un certain succès et qui a conservé son actualité parce que la Chine, qui a, comme vous le savez, mis en place la politique de l'enfant unique, qui n'explique pas elle seule la baisse de la fécondité chinoise, mais en tout cas qui y a contribué, finalement a abandonné cette politique au nom du vieillissement de la population, en se disant on génère un tel vieillissement démographique qu'on ne va pas être en mesure d'y faire face, compte tenu du fait qu'il n'y a pas des institutions sociales qui ont été déjà mises en place et qu'il aurait suffi d'adapter. Donc ils ont abandonné la politique de l'enfant unique face au défi du vieillissement dont ils ont mesuré, d'un vieillissement très rapide dont ils anticipent les conséquences. Sachant que, par exemple, en France, pour doubler la proportion des personnes de plus de 65 ans, passer de 7 à 14, on a mis une centaine d'années, et que des pays comme la Chine mettent 25 ans. Donc, l'adaptation des structures, des mentalités, des relations entre les générations, comme je disais tout à l'heure, doit être très, très forte et doit être prise en compte.
Il n'y a donc pas de solution ou de piste radicale en démographie. Il faut faire avec les chiffres, il faut faire avec ce qu'on est, il faut faire avec ce qu'on fait. Et on ne peut pas décider comme ça, d'un coup de baguette magique, de stabiliser simplement la population. C'est plus long que ça. Et c'est plus compliqué que ça.
Oui, oui. Il y a un très bon exemple, c'est l'Inde, puisque dès les années 1930, les Indiens se préoccupaient de la question de la population. Nehru s'y intéressait. Dès qu'il a été au pouvoir, il a mis en place une politique de limitation des naissances, donc au début des années 1950. Et les objectifs qui avaient été définis de stabilisation de la population indienne ont toujours été repoussés, parce qu'ils ne pouvaient pas être atteints. Alors, pour diverses raisons, il y avait eu c'était l'époque où on considérait que les gens, si on leur donnait des moyens contraceptifs, ils les utilisaient et ils limitaient la taille de leur famille. Mais ça n'a pas du tout marché. Alors après, on a essayé l'éducation des femmes en particulier. Puis il y a eu une période qui mettait l'accent sur les stérilisations, bon, qui a été... on en a parlé et ça n'a pas été un phénomène aussi important que ce qu'on en a dit, mais enfin, ça a été quand même réel. Ça avait contribué à la chute d'Indira Gandhi à l'époque. Et donc régulièrement, l'Inde, elle a toujours une croissance, disons, qui s'est beaucoup ralentie. La fécondité indienne, maintenant, elle n'est pas considérable. Elle a 2,3 enfants par femme, ou juste comme ça. Mais du fait de ce potentiel de croissance, de cette accumulation de la population jeune, elle continue. Donc sur 70 ans, l'Inde n'a pas réussi à stabiliser la population comme elle l'aurait voulu.
Et ça ne se fait pas par décret, parce qu'il y a des surprises hein, dans la manière dont avance notre démographie, dont nous gérons nous-mêmes, hein, dans la famille, dans les milieux, dans les environnements, notre population. Il y a beaucoup de questions à ce sujet d'auditeurs du continent africain pour vous. Je vous en poserai, mais je préférais d'abord vous faire, autour de la question, faut-il avoir peur de la population mondiale, donc titre de votre dernier essai, Jacques Véron. Je préfère d'abord vous faire écouter l'éclairage d'une autre démographe à l'IRD. Elle s'appelle Bénédicte Gatineau. L'IRDC, l'Institut de recherche pour le développement, elle dirige le laboratoire Population, Environnement, Développement de Marseille Université. Et Bénédicte Gatineau s'intéresse particulièrement aux transitions démographiques sur le continent, loin des clichés simplificateurs ou des idées reçues. Elle va nous faire partager quelques surprises. Notre reporter Charlie Dupuy l'a interrogée sur justement les recherches qu'elle vient de mener sur les taux de fécondité dans les zones rurales du continent. Alors ça va de la Tunisie, en passant par le Bénin et jusqu'à Madagascar, avec donc des résultats inattendus. On écoute Bénédicte Gatineau.
Alors moi j'ai travaillé principalement dans des zones rurales dans trois pays, donc en Tunisie, à Madagascar et au Bénin, à la fois dans des zones où les ressources naturelles sont assez nombreuses et aussi dans des zones où les ressources naturelles sont très contraintes, typiquement les oasis du sud tunisien ou les hautes terres malgaches. Et ce qu'on observe dans ces zones rurales africaines, c'est effectivement qu'on a un mouvement assez répandu de baisse de la fécondité dans certaines zones, pas dans toutes, hein, bien sûr, parce qu'on a plus accès à la scolarisation, parce qu'on a plus accès à la santé. Les couples aspirent à autre chose, ou parce que, à l'inverse, on limite sa fécondité sous des contraintes. Ça, par exemple, on l'a pu observer dans certaines zones rurales de Madagascar où on voit bien que limiter sa fécondité, ça devient, comme on est de plus en plus éduqué, comme on a accès à la santé, comme on a envie que ses enfants aillent à l'école, éventuellement trouvent un emploi en ville, on a tout intérêt à en faire moins. Puis il y a une autre variable très importante qui est la mortalité infantile. Pour que la fécondité baisse, il faut que la mortalité infantile baisse. Les gens, ils raisonnent en nombre d'enfants vivants pour aller vite. Donc ça, c'est important. Tant qu'il n'y a pas de baisse de la mortalité infantile, en général, il n'y a pas de baisse de la fécondité. Dans beaucoup de zones rurales africaines et même urbaines dans certains pays, les enfants, c'est votre assurance risque contre le chômage. Si vous n'avez plus d'emploi, ben, c'est vos enfants qui vont vous aider à vivre. Votre assurance vieillesse, quand vous ne pouvez plus travailler, c'est vos enfants qui vont vous permettre de survivre. Et en fait, tant que vous avez besoin d'autant de ces enfants comme assurance risque, en fait, hein, comme caisse de secours, ben vous avez beaucoup d'enfants.
Quel regard vous portez sur cette image d'un continent africain qui serait en pleine explosion démographique ?
Pour moi, il n'y a pas d'explosion démographique, au sens où on voit bien qu'il y a des transitions démographiques, des baisses de la fécondité qui sont à peu près engagé partout. Et pour moi, le problème la difficulté sur le continent africain, c'est plus un problème de développement qu'un problème de population. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un saut important dans le développement, la croissance démographique, elle diminue. Il ne faut pas oublier que pour autant, il y a des pays qui vont avoir leur population qui va beaucoup augmenter dans les 20 ou dans les 30 prochaines années. Le Niger, le Nigeria. Donc ça, c'est des vrais défis. Mais du coup, il faut mettre les moyens pour que ces enfants qui naissent aujourd'hui, quand ils vont arriver sur le marché du travail ou simplement en âge scolaire, il faut mettre les moyens pour que ces enfants puissent être scolarisés, puissent avoir des emplois. Mais le problème est bien un problème de développement et pas un problème de démographie.
Vous partagez l'opinion de la démographe Béatrice Gatineau de l'IRD, interrogée par Charlie Dupuy. Jacques Véron, c'est bien un problème de développement plus qu'un problème démographique.
Oui, alors c'est quand même un petit peu les deux.
Je modulerai un petit peu. Bien sûr.
Pour moi, la question, c'est est-ce que les couples exercent des choix ? Parce que finalement, on a régulièrement, quand la question de la stabilisation de la population mondiale s'est posée, les Nations Unies ont réaffirmé le droit des couples à avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient. Et moi, je suis plutôt dans cette logique, mais il faut que les couples, enfin, il serait souhaitable, peut-être plutôt qu'il faut, que les couples effectuent des choix et soient en mesure d'effectuer des choix. Or, là, je reviens à l'Inde. Dans les parties reculées de l'Inde, les femmes, par exemple, ne sortent pas de chez elles. Elles ne voient même pas d'amis, enfin, de personnes de leur âge. Donc, elles sont complètement confinées dans leur famille, dans la famille. Donc, l'accès à la contraception, l'exercice d'un choix, tout ça, ça n'existe même pas. Donc, elles ont beaucoup d'enfants. Et elles sont en situation, en général, de pauvreté. Donc là, il y a une spirale de la pauvreté, et ça qui a été bien documenté, qui est que finalement, dans un modèle où les enfants ne vont pas à l'école, les petites filles vont, les enfants et les petites filles vont travailler très tôt, donc finalement, la charge d'une famille nombreuse n'existe pas. Et c'est effectivement ce que dit Bénédicte Gatineau, c'est l'éducation et la santé qui vont modifier le système, qui vont être des éléments un peu exogènes d'une certaine façon, qui vont faire que le système va aller vers une autre logique.
Et c'est-à-dire, pour répondre à une des questions d'un de nos auditeurs depuis Brazzaville, il nous dit, mais finalement, est-ce qu'il faudrait véritablement contrôler les naissances, politique de planning familial? Vous dites oui, mais il n'y a pas que ça, il faut ensuite... Ça, c'est en amont, c'est mais ensuite, il faut informer,
oui,
c'est il faut éduquer, compliqué. Hein.
Voilà, c'est peut-être sur le « il faut » que je voudrais revenir. On ne peut pas imposer le contrôle des naissances ou imposer une tâche des familles. On peut donner aux couples les moyens, mais pas uniquement matériels, c'est-à-dire pas simplement distribuer des pilules ou des préservatifs. Faire qu'il y ait une logique, et c'est vrai, ce qui a été dit tout à l'heure, que l'éducation des enfants, c'est beaucoup à travers l'éducation des enfants, c'est-à-dire la volonté que les parents peuvent avoir que leurs enfants soient mieux éduqués qu'eux, c'est ça qui va être un des moteurs...
Pour faire moins d'enfants. Chacun ait plus de chance.
Donc, il y a un effet éducation des femmes via la santé, mieux connaître les questions de la santé, avoir des enfants plus espacés, etc. Mais il y a aussi une espèce de stratégie, en tout cas un désir que ces enfants réussissent mieux que soi. Et ça avait été observé en France, par exemple, quand il y a eu une baisse très précoce de la fécondité en France, à la fin du XVIIIe siècle, il y avait cet investissement sur les enfants qui est devenu plus important.
Donc c'est un changement de mentalité, un changement d'investissement, un changement de mentalité. Il y a une autre question que je voudrais vous soumettre d'un auditeur qui nous écrit de Kinshasa et qui nous dit finalement, puisque vous êtes spécialiste des relations entre population et environnement, il aimerait savoir, puisque l'Afrique connaît quand même un accroissement démographique sans précédent, population constituée principalement de jeunes, quels peuvent être les risques de voir cette population, je le cite, juvénile africaine, fuir leur pays pour migrer vers l'Europe ou vers l'Amérique? C'est vraiment une question qui se pose aussi et qui montre bien que les questions démographiques touchent à tout.
Oui, absolument. Ça, c'est une question effectivement qui revient régulièrement. Il y a un potentiel migratoire très important en Afrique, ça c'est clair. Après, dire est-ce que ça va entraîner effectivement des migrations, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt pas les plus pauvres qui migrent. Mm-hmm. Donc, les plus pauvres ne migrent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils ne sont pas dans un environnement qui les conduit à migrer. Après, il y a un côté spectaculaire des migrations quand on voit les traversées en bateau qui peuvent se terminer tragiquement. Par rapport au déséquilibre numérique, ça n'a rien à voir. Je veux dire par là que si ceux qui sont d'âge actif en Afrique venaient en Europe, bien sûr, il se passerait, ça changerait pas mal les choses.
Et ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas ça qui se passe.
Ce n'est pas le cas. Deux, je pense que on a tendance à considérer que les gens migrent très facilement. Moi, je ne suis pas du tout convaincu que les gens cherchent tous à migrer. Ils peuvent migrer parce que la situation est très difficile. Ils peuvent migrer parce qu'il y a des réseaux migratoires et qu'on leur fait croire qu'ailleurs, c'est formidable. Donc, il peut y avoir des raisons diverses, mais tous les gens n'ont pas envie de migrer. Il y a un attachement au pays d'origine. Donc, moi, je ne crois pas du tout à cette invasion dont on parle et qui est faite pour faire peur. Mais en même temps, on ne peut pas sous-estimer le défi auquel est confrontée l'Afrique. Et il ne suffit pas de tomber dans l'angélisme non plus.
C'est ça. D'ailleurs, dans cet ouvrage, Faut-il avoir peur de la population mondiale, vous n'êtes ni alarmiste, ni catastrophiste, ni non plus spécialement rassurant. Ce n'est pas votre rôle. Par contre, ce que vous nous montrez, c'est à quel point ces questions de démographie, de population, sont liés au niveau de vie, au niveau de développement, à la manière dont on vit dans son environnement. Enfin, tout ça, c'est complexe parce qu'au fond, ça rassemble plein de facteurs, les facteurs humains aussi. Enfin, il n'y a pas une solution simple, il n'y a pas une piste simple. Il y a un fait, nous sommes très nombreux sur Terre, mais Il y a une question, ce n'est pas une question géographique. On pourrait tenir aussi nombreux que ça sur Terre.
Oui, oui.
Ce n'est pas ça le problème.
Oui, oui. Et si on avait un mode de vie très frugal, en respectant la reproduction sur la planète des plantes, avec des économies qu'on pourrait dire douces, oui, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Après, c'est vrai que les modes de vie des pays développés, ils ont servi de modèle pour les autres pays. Il y a une époque où les pays riches disaient aux autres, faites pas comme nous, limitez vos naissances, parce que sinon, ça n'ira pas du tout. Implicitement, si vous faites comme nous, ça n'ira pas du tout. Bon, ce n'était pas un discours qui était audible.
Bien sûr.
Après, tous les discours sur... parce que en Afrique, depuis la conférence du Caire de 1994, il y a quand même une sensibilisation des chefs d'État africains aux questions de population. Bon, ce qui était quand même nouveau, parce qu'il y a l'idée que la famille nombreuse, c'était plutôt valorisant. Mais passer de là à une espèce de contrôle étatique des naissances, je crois, un, ce n'est pas souhaitable, et deux, ça n'est pas possible.
Tout simplement, autour de la question comment concilier finalement population, environnement et développement, puisque de cela qu'il s'agit pour le démographe que vous êtes. Jacques Véran, vous avez choisi d'écouter un tube planétaire de Michael Jackson, Earth Song. On l'écoute avec plaisir et vous nous expliquerez pourquoi ensuite.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Stop to notice this crying earth.
Michael Jackson sur RFI autour de la question de la démographie. Pourquoi ce joli choix, Jacques Véran ?
Parce que je trouve que souvent, sur les questions environnementales, on est bercé par des images. Et je trouve que par le son, on arrive à avoir une émotion peut-être plus intense. On est d'une certaine façon plus en accord avec la nature. En tout cas, ça touche plus, ça résonne plus, pour moi en tout cas. Parce que je trouve qu'il y a une espèce de banalisation de l'image. On montre des images plus ou moins catastrophistes. Finalement, on s'y habitue d'une certaine façon. Et donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est que il montre implicitement bien les différentes dimensions de l'environnement. Il considère différentes questions. Et
qui sont toutes très liées aux questions démographiques. La démographie est très liée à ces questions environnementales.
Oui, la démographie est très liée. Elle est très liée d'ailleurs en facteur de modification et elle est très liée en effet, en conséquence de modification.
C'est-à-dire ?
Je dirais, par exemple, si on considère la relation de la population avec la forêt, si les gens sont très très nombreux, c'est même pas très très nombreux, mais si les gens s'installent quelque part dans la forêt amazonienne, ils vont déforester. eh bien, déforestant, ils vont modifier les conditions climatiques et modifier les maladies, etc. Donc, il y a des effets dans les deux sens. Alors, là, c'est typiquement un exemple où il y a du nombre. C'est bien parce qu'il y a des gens et c'est bien parce qu'il y a des densités de population. Mais en fait, ce n'est pas non plus le nombre mondial qui va induire ça. C'est le fait qu'on va vouloir développer des activités industrielles etc. Donc, ce qui renvoie à toutes les questions d'huile de palme en Indonésie ou ailleurs. Où, bien sûr, l'Indonésie a une croissance, une population importante. Il y a des gens qui sont en situation dominée, je dirais. Mais ce n'est pas eux qui provoquent tout ce qui se passe. Et c'est là qu'on revoit la déconnexion. Bon, on la retrouve aujourd'hui avec le Covid. La déconnexion entre ce qui se passe quelque part et ce qui se passe ailleurs, au départ, et puis après, une très forte connexion. Dire par là que quand on installe une usine d'huile de palme ou des plantations d'huile de palme en Indonésie, c'est au profit des pays développés, mais ça a une incidence sur les conditions de vie des locaux, sur le rapport à la propriété, le prix des terres, etc. Puis finalement, ça a une conséquence sur la santé des populations. Donc là, on voit bien qui a des effets très locaux et qui se connectent à des effets internationaux.
Globalisation, oui, mondialisation, voilà. On est en plein dedans quand on parle de la démographie. Vous avez, Jacques Véron, beaucoup travaillé en Asie, notamment en Inde. Et la démographie, c'est une question centrale en Inde, hein, depuis toujours, vous l'avez dit. En particulier aujourd'hui, à l'heure de la pandémie du Covid, qui a très durement frappé le pays. À ce sujet, et grâce à vous, hein, Jacques Véran, nous avons pu joindre le professeur Ashwini Kumar Nanda du Centre de recherche pour le développement rural et industriel de Chandigarh, en Inde, avec lequel vous avez beaucoup travaillé. Nous l'avons joint par téléphone pour recueillir son point de vue sur l'impact justement de cette pandémie du Covid-19 sur la démographie indienne. Alors, on a, on le rappelle, deuxième pays le plus touché en nombre d'infections par habitant, qui vient de passer le cap des 7 millions de cas par habitant, mais qui là encore, il faut relativiser, comme nous l'a précisé le professeur Kumar, ne compte que, si j'ose dire, 100 000 morts pour une population totale d'1,3 milliard, ce qui représente un taux de létalité de moins de 2%. Quel sera l'impact du Covid sur la démographie indienne? Voici ce que le professeur Ashwini Kumar Nanda peut en dire depuis Chandigarh en Inde. Écoute.
As far as fertility and mortality are concerned, not much impact. But
dans l'absolu, la COVID-19 n'aura pas beaucoup d'impact sur notre taux de natalité et de mortalité. Mais en revanche, avec la fermeture des hôpitaux, on risque d'observer un impact spécifique sur la mortalité infantile. Car on l'a vu, les programmes de vaccination ont été impactés. La plupart des hôpitaux ont été fermés. Les femmes n'ont pas pu se rendre à l'hôpital car les transports n'étaient pas disponibles. Et maintenant, les transports ont repris, mais les gens ont peur d'aller à l'hôpital de crainte d'y attraper la COVID.
Sense our infant mortality, which is around 41.
Notre taux de mortalité infantile se situe autour de 41 pour 1000 et pourrait encore augmenter, surtout si on regarde la répartition par sexe, c'est-à-dire la mortalité infantile chez les garçons et la mortalité infantile chez les filles. De fait, la COVID a induit de graves problèmes de subsistance pour une partie de la population. Les gens ont perdu leurs emplois et leurs revenus. Et vous savez, en Inde, les couples pratiquent la préférence pour les naissances masculines, c'est-à-dire que l'on préfère avoir plus de garçons que de filles. Et donc, quand vous avez de faibles ressources dans le foyer, à l'évidence, les parents préfèrent les allouer aux fils plutôt qu'aux filles. Et donc, d'une certaine manière, la crise causée par la COVID renforce, réintensifie cette préférence pour les fils. Et quand la préférence pour les fils augmente, on a plus de risques d'avoir des pertes chez les filles et donc en ce sens, on peut avoir un excès de mortalité infantile chez les petites filles. Et ça, c'est vraiment un point important à garder en tête.
We have an impact on both internal migration and international migration.
Et puis, il y a l'impact sur les migrations, à la fois les migrations internes sur le sous-continent et les migrations internationales. En ce qui concerne les migrations internes, on a eu de nombreux déplacements de population. Le confinement a été annoncé de manière très soudaine, les gens n'étaient pas préparés du tout. Sur le moment, ils n'ont pas pu se déplacer d'un endroit à l'autre. Or, ils n'avaient plus rien à manger car tout s'était arrêté. Leur emploi, les commerces, les usines, tout était fermé. Certains avaient des alternatives, mais d'autres non. Donc, on a du mal à estimer précisément les migrations internes. Certains parlent de 50 millions de déplacés. Mais encore une fois, les estimations varient.
So these people crossing from one state to another, they started walking because there are no train.
Mais du coup, les gens ont quand même dû se déplacer d'un état à l'autre et ils ont commencé à le faire à pied parce qu'évidemment, il n'y avait plus de train. Les trains étaient suspendus, les bus et les taxis également. Il y a eu beaucoup d'agitation sur les routes et dans cette période, on a enregistré de nombreux accidents. Il y a eu beaucoup de morts sur les routes. Bref, on a eu beaucoup de problèmes dans le cadre des migrations internes. C'est surtout les travailleurs de la petite industrie, de l'économie informelle qui ont été impactés par les déplacements internes, parce que ces gens avaient perdu leurs revenus et leurs maisons. Ils sont donc retournés dans leur région d'origine, mais là-bas, il n'y avait rien, donc ils ont dû revenir. C'est pourquoi on a eu beaucoup d'allers-retours, de mouvements de ce genre, et c'est sans doute l'un des principaux impacts de la Covid sur le sous-continent.
Vous voulez réagir, Jacques Véron, à ces propos du professeur Ashwini Kumarananda du Centre de recherche pour le développement rural et industriel de Chandigarh en Inde. Moi, je trouvais ça très intéressant, très étonnant. Au fond, il parle de mortalité infantile féminine et oui. Il parle de migration interne. Et c'est ça qui se verra sur les courbes démographiques par rapport à la Covid-19 en Inde.
Oui, oui. Alors, les données de mortalité, on les observe. Les données de migration, on ne les a pas.
Bien sûr.
C'est très difficile de mesurer l'immigration. Et par ailleurs, si les gens vont et reviennent, c'est comme s'ils n'étaient pas partis, suivant le moment où on les observe. Ce qu'il y a aussi en Inde, il y a deux éléments supplémentaires, à mon sens. Un, c'est que qu'est-ce que c'est le confinement dans un univers où il y a des bidonvilles partout ?
Bien sûr.
Où les gens dorment dans la rue, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, on est à des niveaux de pauvreté qui créent des situations très spécifiques. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, suivant les États, il y a eu des réactions face à l'épidémie très différentes. Et je prends comme exemple l'État justement dont vient le professeur Nanda, qui est l'État d'Odisha, habitué à des catastrophes naturelles. Donc il y a toute une pratique sociale de faire face à des événements extrêmes. Et il y a une mobilisation qui est finalement assez rapide parce qu'il y a des relais pour sensibiliser les populations, éventuellement les déplacer si c'est nécessaire. Et donc c'était un État qui a eu moins de cas du fait qu'il y avait une pratique antérieure. Au Kerala, où il y a eu une épidémie en 2018, de la même façon, il y avait un apprentissage par rapport à d'autres États qui subissaient l'épidémie en étant totalement démunis.
Certains chercheurs pour le continent africain également parlent d'expériences, si l'on peut dire, d'Ebola, ou en tout cas de pratiques d'épidémies, de phénomènes violents, qui du coup permettent peut-être de faire plus face aux populations. Ce qui revient aussi à dire que finalement, il ne faut surtout pas d'en haut décider, et on ne peut pas décider d'en haut des questions démographiques, que finalement c'est chacun où il est, qui fait avec, qu'on peut informer, qu'on peut être au courant, mais qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne.
Oui, alors l'information est un élément majeur, vous avez raison. La difficulté, c'est d'informer quand on ne sait pas très bien ce qui se passe.
C'est vrai, bien
et
sûr.
Et sur le coronavirus, c'est quand même été beaucoup le cas. Et ce n'est pas propre aux pays moins développés. Je veux dire, on l'avait bien vécu en France. Là, on est un peu dans les logiques de principes de précaution plus que d'une gestion efficace
Mais en tant que démographe, cette épidémie se verra sur les courbes démographiques.
Ah oui, elle se verra, oui. Déjà en France, elle se verra en termes de mortalité, on a une surmortalité. Après, il y a un peu de difficulté parce qu'il y a des gens qui sont morts du coronavirus qui seraient morts d'autre chose, donc il y a des effets un peu de substitution. Mais oui, ça se voit.
Autour de toutes les questions démographiques, il nous faut donc réévaluer à la fois nos peurs, mais aussi les vrais enjeux autour de ces questions de la population mondiale, en se mettant par exemple à l'écoute des Amazones d'Afrique et avec le sourire en plus. Smile, c'est le titre de ce morceau, extrait du dernier album des Amazones, Niarine et Ami Yerewolosour sur RFI.
We need to take it, our future, into our hands, let's say, our future.
Let's do
our future.
Des sisters des Amazones d'Afrique sur RFI. En compagnie du démographe Jacques Véron, autour de la question empruntée au titre de son dernier essai « Faut-il avoir peur de la population mondiale ?», je propose un nouvel éclairage, et celui de l'architecte Winston Montero, qui lui s'attache à restructurer, à repenser les mégalopoles africaines face à l'explosion démographique. D'ici à 2050, le continent devrait accueillir plus de 300 millions de nouveaux citadins. Un vrai défi qu'on tente de relever, que lui tente de relever en architecte associé au sein de l'agence Architecte Studio. Il est notamment en charge de la construction d'une ville nouvelle, celle de Yenanga au Burkina Faso, non loin de Ouagadougou. Notre reporter Charlie Dupiot l'a interrogé sur l'expansion démographique de ces villes africaines qu'il connaît bien.
Aujourd'hui, cette expansion urbaine, c'est un problème. C'est un problème parce que ça a été très vite. Si on regarde, la population urbaine dans les années 60 était de quelques centaines de milliers d'habitants. Et aujourd'hui, les capitales africaines dépassent tous les quelques millions d'habitants. Si on prend un exemple, la Côte d'Ivoire, dans les années 60, peut-être il avait 300-400 000 habitants. Aujourd'hui, c'est une ville qui...
Abidjan,
exactement. C'est une ville qui a à peu près 7 millions d'habitants. J'ai parlé d'Abidjan, mais on pourrait parler d'autres villes comme Lagos, comme Kinshasa, qui a eu une expansion démographique incroyable et très vite. C'est pour cela qu'il faudrait repenser la restructuration de ces villes. Comment le repenser? Bon, on aurait envie de densifier plus les villes, de limiter l'expansion urbaine vers les périphéries, toujours vers plus loin de la ville, mais plutôt de densifier une ville. Qui dit ville dit immeuble. On ne peut pas parler d'une ville et imaginer qu'on va vivre tous 7-8 millions d'habitants à Abidjan, chaque personne dans sa villa avec le jardin. Ça serait intenable du point de vue environnemental. C'est pour cela qu'on continue à parler en Afrique de villes nouvelles.
Vous travaillez sur un projet, notamment au Burkina Faso, la ville nouvelle de Yenanga, qui est à 15 km au sud du centre-ville de Ouagadougou. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet ?
Ouagadougou, c'est une des villes qui grandit au plus vite dans la sous-région, à cause des problèmes liés au terrorisme dans le nord, entre le Mali et le nord du Burkina. Donc, il y a des milliers de personnes qui arrivent chaque mois dans cette ville, et il y a une demande très importante en logement. Et donc, c'est pour cela que le promoteur avait choisi cet endroit pour lancer ce projet.
Et cette ville nouvelle de Yenanga devrait accueillir 80 000 habitants. Comment faire en sorte que ça soit une ville accessible pour des populations défavorisées aussi?
Aujourd'hui, c'est le cas, hein, parce que beaucoup des parcelles limitrophes de centre-ville sont déjà commercialisées. Il y a déjà beaucoup de familles qui y vivent. Des gens qui sont en train de faire de l'autoconstruction selon le cahier de charges qui a été mis au point par le promoteur. Donc aujourd'hui, quand nous parlons de repenser la ville, c'est toujours très mégalo de dire on va repenser la ville de Kinshasa. Mais je pense qu'il faut ne pas dire que des quartiers sont catastrophiques, donc allons construire, allons expandre, continuons à grandir dans de nouveaux quartiers qui vont être, parce que c'est un écosystème. Et il faut penser la ville comme un écosystème. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement.
Vous voulez réagir, Jacques Véron, au propos de l'architecte Winson Montero? Il faut, repenser la ville, même si ça fait un peu mégalo, mais comme un écosystème.
Oui, oui, tout à fait. Et en n'excluant pas les rapports avec la, campagne environnante, mais aussi avec tous les lieux du monde qui alimentent ces villes. Parce qu'on imagine souvent la ville un peu comme un lieu fermé. Mais moi, je trouve quand même intéressant de raisonner un peu à travers les, notions d'empreinte écologique en regardant à quels endroits du monde ces villes sont connectées via la consommation, via le tourisme, etc. Après, je pense que la question urbaine, elle, est assez complexe. Il y a la question de la taille des villes. La densité, effectivement, d'un certain côté, c'est bien, mais en même temps, les gens aspirent. Donc, il y a des aspirations individuelles à avoir un espace privatif. Je ne crois pas qu'il y ait des solutions. Bien sûr, il y a, des cas limites comme Los Angeles, qui est une ville complètement étalée par rapport à des villes où, par rapport à Manhattan, même si ce n'est pas tellement un lieu d'habitation, plus de bureaux. Mais enfin, disons que ce sont deux modèles de villes radicalement différents. Et la question qui se pose aussi à propos de la ville, c'est la question de, l'environnement urbain. Quelle est la qualité de l'environnement urbain et quel est l'effet de la ville sur la qualité de l'environnement mondial, c'est-à-dire via les consommations des urbains, sachant qu'on sait que les modèles de consommation des urbains sont beaucoup plus prédateurs que ceux normalement des ruraux. Donc il y a deux enjeux, il y a un enjeu interne, comment vivre bien en ville, et il y a un enjeu mondial, c'est comment faire que la ville ne pèse pas trop sur la production de CO2, etc.
On se rend compte que les enjeux sont effectivement à la fois locaux et, globaux, et que c'est plus, plus qu'une question de démographie, c'est aussi une question de justice environnementale, d'équité. D'équité économique et qu'au fond finalement plus que on aurait peut-être moins peur de la population mondiale si on plaçait la question sur, la question justement de la justice, de l'égalité à la fois environnementale et entre humains. Merci infiniment Jacques Véron d'être venu en direct nous donner ces petites pistes là, décrypter en tout cas ces essentielles et complexes questions démographiques. Alors pour vous faire votre propre opinion, parce que c'est un peu ça hein, que vous avez envie de, nous faire faire Jacques Véron à travers cet ouvrage, chers amis auditrices et auditeurs, je ne saurais trop vous conseiller l'ouvrage donc de Jacques Véron et ses brefs, concis, complets, percutants, intitulés « Faut-il avoir peur de la population mondiale ?» point d'interrogation, qui vient de paraître aux éditions Point Essai. Merci Jacques Véron.
Merci.
Question sur internet www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. À réécouter, à partager et à podcaster à volonté. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditrices et auditeurs, sous le ciel sénégalais entre Dakar et Kaolack, pour partager les récentes observations effectuées pour la NASA par l'ingénieur astronome et président de la Société sénégalaise d'astronomie Maram Kéré et ses équipes, mais aussi la sortie du premier magazine OEM sur l'astronomie africaine. Autour de la question, pourquoi nous connecter au ciel africain ? Rendez-vous demain pour le faire ensemble avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre interactivité. Surtout, restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.